à tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
Nous y sommes, regardez-les. Ne sont-elles pas magnifiques ? L'une est blanche, l'autre est bleue avec des points verts. Voici devant nous la Lune et la Terre. Enfin, un croissant de Lune et un croissant de Terre. Peut-être d'ici pourriez-vous d'ailleurs distinguer l'éclairage artificiel sur la face sombre de la Terre. Mais vous avez intérêt à avoir de bons yeux. Allez. Bienvenue Spoutnikériens, à bord de votre capsule spatiale propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Après avoir traversé le système solaire en long, en large et en travers, nous voici arrivés à la source du dangereux signal diffusant du Céline Dion. Aucune idée de ce à quoi nous allons avoir à faire pour pouvoir stopper la diffusion, mais une chose est certaine, la tâche ne risque pas d'être aisée. Ah, que j'aimerais entrer les coordonnées d'une plage de sable fin sur Terre et d'avoir un délicieux cocktail entre les mains. Mais bon, notre mission du jour est ailleurs, et c'est l'unique satellite naturel de notre planète qui va aujourd'hui nous intéresser. Oh, nous sommes loin d'être les premiers à vouloir y poser le pied. Un truc rond, gros, blanc et perché au milieu du ciel nocturne, ça intéresse forcément depuis longtemps. Et évidemment, tout le monde en a été de sa petite hypothèse pour expliquer l'origine de ce caillou banal et pourtant intrigant à la fois. Alors, chers voyageurs, attachez bien vos ceintures et plutôt deux fois qu'une, car aujourd'hui, on va s'intéresser à la formation de la Lune. Ah, ça commence! Accrochez-vous d'autant plus car notre trajet du jour va être semé d'embûches et d'ennemis de ce genre, mais pas d'inquiétude, on va se débrouiller pour faire les deux en même temps. Ordinateur? Musique de circonstance. Ah, très bon choix! Allez, cramponnez-vous, c'est parti! Mais ils sont à plusieurs en plus! La Lune est à 384 400 km de la Terre en moyenne, avec une légère variation. Armstrong et ses deux collègues, Aldrin et Collins, ont pour Apollo 11 parcouru 1 500 000 km, à cause de la trajectoire qu'ils ont dû emprunter pour optimiser la quantité de carburant. Ça leur a pris 8 jours entre le départ et le retour sur Terre. Ah ! Bon, nous, on a plus de chance. Vous commencez à la connaître, la capsule dispose d'atouts qui font son charme, dont un dispositif particulièrement pratique pour mettre fin aux courses-poursuites. Mais il a besoin d'un peu de temps pour charger. En attendant, les moteurs principaux, aussi magnifiques que capricieux, devront nous faire gagner quelques précieuses secondes. J'espère qu'ils vont quand même marcher. Allez, 3, 2, 1, allumage! Sacrebleu, ils nous tiennent à la jambe! Quelle bande de crampons! À cette vitesse, ils reviendront à portée de tir dans moins de 12 secondes! Le décodeur est bon, lui.
Un chevalier du bien ne doit avoir pour cela que son courage et sa détermination.
Il est gentil, mais c'est pas lui qui se fait tirer dessus. Oh, et non, ils ont dressé un barrage entre nous et la surface. Ça va passer. Ça va être chaud, en fait. C'est passé. Non, sans mal. Occulteur au plancher. Ah, c'est bon, ils ne peuvent plus nous voir. On va cette fois-ci essayer de prendre une trajectoire plus imprévisible, histoire d'éviter de se reprendre un coup pour rien. En attendant, laissez-moi revenir un peu sur notre éclatante destination. La Lune est un objet central dans le ciel nocturne. Véritable star de la nuit, c'est bien le seul objet du ciel que tout à chacun sur la planète peut nommer sans l'ombre d'un doute. Et évidemment, il a intrigué, toujours, tout le temps. Si bien que la plupart des civilisations anciennes avaient un dieu ou une déesse de la Lune marchant souvent de pair avec celui ou celle du Soleil. On l'appelle Enigna chez les Zoulous, Khonsu en Égypte, Metzli chez les Aztèques, Tsukuyomi au Japon, Chandra en Inde ou Artemis en Grèce. Remarquez par ailleurs que les agences spatiales piochent allègrement dans les différentes mythologies pour nommer leurs missions spatiales, notamment du côté de Chandra et Artemis. Pour son empreinte dans la langue française, on notera également Sélène, censée être la personnification de l'astre blanc dans la mythologie grecque. L'emprunt dans la langue est ici double. Du grec Sélène naîtra le mot Sélénite, le nom des supposés habitants de la Lune. Les Romains, eux, transposeront Sélène dans leur panthéon sous le nom de Luna, le reste est plutôt logique à déduire. Bon, laissons la divine Sélène et son char lunaire pour remettre un peu les pieds sur terre, mais toujours la tête en l'air. Car oui, c'est bien joli d'inventer des histoires pour expliquer les phénomènes qui nous entourent, mais quand l'histoire passe, le vernis divin des mythologies d'autrefois patine un peu. Ainsi, plus proche de nous, d'autres ont essayé de donner des explications plus scientifiques à cette balle d'un blanc laiteux dans le ciel nocturne. Au milieu du XXe siècle, il y a alors trois théories dites « traditionnelles » qui sont défendues pour expliquer la formation de la Lune. Aucune, cependant, ne parvient à mettre tout le monde d'accord, et beaucoup pensent alors que la question ne sera jamais résolue de façon satisfaisante. Avant d'en arriver au pourquoi du comment de la formation de la Lune, il est intéressant de savoir pourquoi elle pose autant de questions. Si la Terre et la Lune forment aux yeux de tous un couple plutôt banal, on parle de système Terre-Lune, il est à l'échelle du système solaire plutôt intrigant. Allez, dézoomons un petit peu pour mieux comprendre. On l'a déjà vu lors de nos voyages précédents, le système solaire compte 8 planètes, 4 rocheuses, dites telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et 4 géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Trouver une ou même plusieurs lunes est très courant autour des géantes gazeuses. Jupiter en compte 79 et Saturne 82 par exemple. Certaines de ces lunes sont particulièrement grandes, c'est le cas des satellites galiléens ou encore de Titan. Tous ayant un rayon supérieur à 1500 km. Cette apparente banalité n'en est en fait pas une quand on s'intéresse aux planètes rocheuses. Plus petites, Mercure et Vénus n'ont aucun satellite, quant à Mars, elles n'en possèdent que deux très petits de quelques dizaines de kilomètres de diamètre et plus assimilables à des astéroïdes qu'à autre chose. La Terre et son énorme satellite de 3400 km de diamètre fait donc figure d'exception, et pourquoi pas d'anomalie. Alors, comment ? Pour Mars, une capture des deux satellites est l'hypothèse la plus considérée. En passant un peu trop proche de la planète rouge, deux astéroïdes se seraient retrouvés prisonniers de son orbite, et boum, ça fait deux lunes toutes petites. Pour les planètes géantes, la capture est aussi envisageable. Les planètes géantes sont si grandes qu'elles éjectent ou capturent tout ce qui vient leur dire bonjour d'un peu trop près. Certaines lunes massives des planètes géantes se seraient également formées par accrétion, c'est-à-dire par agglomération de poussière et de roches, et parfois même de glace, grâce à un disque de matériaux autour des géantes en question. Ça, on le sait, car on a pu voir le processus à l'œuvre au sein des anneaux de Saturne. On avait d'ailleurs abordé ce sujet dans le tout premier voyage de cette capsule. Sur le papier donc, on est tenté de se dire que l'un des deux cas peut s'appliquer à notre Lune. Le problème, c'est que d'un côté, la Lune est trop grande pour que la Terre puisse l'avoir capturée, et que de l'autre côté, il est peu probable qu'une planète de la taille de la Terre ait eu pendant sa formation un disque de poussière suffisamment conséquent pour voir apparaître un satellite de la taille de la Lune. Donc là, vous saisissez tout le nœud du problème. Au milieu du XXe siècle donc, trois théories sont en compétition. La capture, que nous avons mentionné plus tôt, la coformation, qui voudrait que la Lune se soit formée en même temps que la Terre dans le disque d'accrétion de poussière autour du Soleil, et la fission, qui voudrait que la Lune se soit formée par éjection de matière depuis la Terre due à une vitesse de rotation très élevée. On a déjà vu que la capture était peu probable. La coformation, quant à elle, pose problème car elle ne colle pas avec certaines caractéristiques du système Terre-Lune, et notamment son moment cinétique. La dernière théorie, la fission, proposée par George Darwin, le fils de Charles en 1878, permet d'expliquer par exemple la taille et la densité de la Lune. Un géologue postérieur à Darwin propose même qu'on peut trouver des traces de cet événement au fond du Pacifique. Donc la fission, bonne solution ? Eh bien non, car pour pouvoir éjecter autant de matière de la sorte, la Terre aurait dû tourner vite, extrêmement vite. Avec une telle vitesse, une journée sur Terre durerait 2h30. Alors, il est vrai que la Terre a, dans sa prime jeunesse, tourné sur elle-même un peu plus rapidement qu'aujourd'hui. Mais là, ça fait vraiment trop rapide. Non, c'est dans les années 1970 qu'émerge la théorie qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai nommé la théorie de l'impact géant. Oula oula, en parlant d'impact, on risque d'ajouter un cratère à la surface si je n'inverse pas la poussée très rapidement. Là, on va se poser là, ça fera l'affaire. Ce n'est pas trop loin de la base et ça ne sera sûrement pas trop prévisible. Allez, on descend.
On a du pain sur la planche. Ah, pardon, attendez.
Voilà. Maintenant, vous devriez mieux m'entendre. L'impact géant, donc. Ouais, je sais. Vous l'avez vu, ou plutôt entendu dans les épisodes précédents, dans l'étude de l'espace, les chercheurs aiment donner aux phénomènes qu'ils croisent des noms qui, disons, claquent plutôt bien. Big Bang, trou noir supermassif, géante rouge, super géante jaune, hyper géante bleue, et donc impact géant. Si cette surabondance de superlatifs pourrait vous faire penser à la communication d'un célèbre vendeur de matériel électronique américain, il n'est pas exagéré de qualifier d'impact géant une collision qui pulvérise une planète tout entière. Et c'est en découvrant des événements ou objets encore plus monstrueux qu'on finit par adopter une série d'adjectifs tous plus grandiloquents les uns que les autres dans le but de qualifier un impact 23% plus violent et 64% plus destructeur que celui précédemment découvert. L'impact géant proposé par William Hartman et Donald Davis en 1975 est clairement un de ces événements aux allures cataclysmiques que même Hollywood aurait eu du mal à crédibiliser dans un film à grand budget. Il y a 4,4 milliards d'années, la Terre est encore une toute jeune planète. Elle est née 0,1 milliard d'années auparavant. C'est une planète qui ne ressemble en rien à celle que nous connaissons aujourd'hui. Point d'atmosphère respirable, point de vert, point de bleu, tout cela n'apparaîtra que bien plus tard. À cet épisode, la Terre tient plutôt de la boule de roche en fusion, pas encore vraiment terminée. L'intérieur de cette dernière n'est d'ailleurs pas encore différencié. Cela veut dire que les éléments qui la composent ne se sont pas encore arrangés pour former les couches qui la structurent, c'est-à-dire le noyau, la croûte, le manteau, etc. Dans le système solaire, c'est un peu la même musique. Tout y est, mais pas encore vraiment terminé. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est si on se met à compter le nombre de protoplanètes qui se baladent autour du Soleil. Une protoplanète est un corps comme notre Terre primitive qui, s'il parvient à survivre jusqu'à la fin de sa formation, deviendra une planète à part entière. A première vue, on serait tenté de se dire que ces protoplanètes sont au nombre de 8, correspondant aux 8 planètes du système solaire que l'on connaît. Cependant, en les comptant, on se rend rapidement compte qu'on manque de doigts pour les compter. Si elles tournent au moins toutes dans le même sens autour du Soleil, c'est un peu la foire à la saucisse concernant les orbites. Les unes croisent les autres, passant parfois dangereusement proches les unes des autres. Certaines se font ainsi capturer par des protoplanètes plus grosses pour devenir des lunes. D'autres se font carrément éjecter du système solaire pour devenir des corps errants dans l'espace interstellaire. Dans ce jeu de billard stellaire, l'événement le plus redoutable est la collision. Il y a 4,4 milliards d'années, la Terre se trouve alors dans une trajectoire d'interception, avec un gros morceau, une protoplanète de la taille de Mars que l'on appellera Theia. Cette joyeuse protoplanète en provenance de l'intérieur du système solaire impacte la proto-Terre à très grande vitesse. L'impact est particulièrement violent, Theia est pratiquement pulvérisée et la Terre est salement balafrée. Il y a de la poussière et de la roche partout en orbite, bref, c'est un gros bazar. Une partie de la masse de Theia fusionne avec celle de la Terre qui gagne au passage un peu de volume et des éléments lourds. Le reste, c'est-à-dire les roches en orbite terrestre, vont s'accréter progressivement pour former la Lune. Certaines études font l'hypothèse que cette formation a été ultra rapide, moins d'une centaine d'années pour former une proto-Lune et moins de 10 000 ans pour obtenir une Lune proche de celle que l'on connaît aujourd'hui.
C'est bon, on est à l'entrée du complexe. Laissez-moi quelques instants pour pirater le panneau de commande de la porte. Voilà. Allez, on rentre. Je pressurise le sas. Voilà, on peut enlever la combinaison.
Mince, j'ai oublié de prendre des chaussures.
Gueule ! Stop !
Oh non, c'est reparti. Non, il dit que c'est pire, c'est ici. À gauche. Non, en fait, à droite. Là, on va aller là-dedans. Une nurserie ?
Chut ! Il faut passer sans faire de bruit, la porte est de l'autre côté. Stop !
Une autre porte ! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est immense ici !
Prendrez-vous du thé ?
Volontiers. Une autre porte ! Un placard ! Super ! Je vais me cacher là-dedans en attendant que ça passe. Ah, où j'en étais dans mes explications, moi ? Ah oui, c'est vrai. La lune fraîchement formée. Si, comme on l'a vu, la lune se forme en un temps record, vous auriez peut-être du mal à croire que vous êtes sur Terre si vous aviez eu la possibilité d'y poser un pied à l'époque des fées. Outre le fait que la Terre à l'époque est une véritable fournaise, le ciel vous aurait semblé familier, mais plusieurs choses vous auraient, disons, troublé. Lors de sa formation, notre satellite était en effet bien plus proche de la Terre qu'il ne l'est actuellement. L'astre était ainsi à 3,8 rayons de la Terre contre aujourd'hui plus de 60, sachant que la Terre a un rayon de 6400 km. Autant dire que la Lune était vraiment un jet de pierre de la surface. Les journées vous auriez d'ailleurs paru bien plus courtes qu'aujourd'hui, puisqu'elles ne duraient qu'une dizaine d'heures. À ce train-là, l'année 2020 aurait duré 880 jours. Vous imaginez le cauchemar. Bon, pour en arriver là où on en est aujourd'hui, il a fallu faire jouer les lois de la physique. En se tournant l'une autour de l'autre, la Terre et la Lune exercent sur chacune d'elles une force de marée. Cette force est bien visible sur Terre, notamment en bord de mer, avec la variation du niveau de l'eau en fonction de l'heure de la journée. Cette force ne s'arrête cependant pas à la plage, et a aussi un effet moins visible sur le continent. Réciproquement, la Terre, plus massive que la Lune, exerce sur elle un effet de marée conséquent qui force la Lune à présenter à notre planète toujours la même face. Ce jeu d'attraction conduit la Lune à ralentir la rotation de la Terre. Le temps d'une journée s'allonge ainsi de 2,3 millisecondes par siècle. Cela peut paraître peu, mais ça a permis à la journée de passer de 10 à 24 heures en 4,4 milliards d'années. L'énergie que la Terre perd au cours du temps conduit également la Lune à s'éloigner de cette dernière à mesure de 3,3 cm par année. Cet effet peut être mesuré avec précision depuis les années 60, notamment grâce aux missions Apollo qui ont déposé à la surface de la Lune des réflecteurs permettant d'effectuer des mesures de distance au laser. En se posant 2 secondes, on se rend compte qu'on vit à une époque assez intéressante. À mesure que le temps passe et qu'elle s'éloigne, la Lune rétrécit dans le ciel. Le hasard fait bien les choses, car la Lune a aujourd'hui exactement le même diamètre apparent que le Soleil, ce qui nous permet d'admirer de temps à autre de magnifiques éclipses de Soleil. Au-delà des éclipses, l'impact géant et la Lune qui l'a fait émerger au-dessus de nos têtes a eu des conséquences importantes sur l'évolution de la Terre. D'abord, le choc en lui-même est à l'origine de l'inclinaison de la Terre de 23 degrés, bien visible sur un globe terrestre de salon. La fusion de la proto-Terre avec une partie de Theia a également permis à notre planète de prendre en masse et de gagner un noyau métallique plus massif. Les conséquences étant que l'effet dynamo généré par ce dernier est plus grand, résultant dans un champ magnétique plus important. Pour rappel, le champ magnétique terrestre ne sert pas seulement à indiquer le nord, mais aussi et surtout à protéger la Terre contre les vents solaires, des particules énergétiques émises par notre étoile et dommageables à l'atmosphère et aussi à la vie sur Terre, en particulier sur les continents. Enfin, la taille de la Lune, grande par rapport au standard, a permis à la Terre de stabiliser son obliquité, c'est-à-dire son axe de rotation. Mars, par exemple, qui ne dispose pas d'une lune de taille conséquente, a un axe de rotation qui peut varier entre 11 et 49 degrés. Une variation aussi importante de l'axe de rotation aurait causé sur Terre des changements climatiques réguliers et très importants, rendant une nouvelle fois la vie compliquée, voire impossible. Cela amène par ailleurs certains scientifiques à penser que la présence d'une grosse lune est un facteur décisif dans l'apparition de formes de vie complexes, voire même intelligentes, à la surface d'une planète. La théorie de l'impact géant fait aujourd'hui globalement consensus pour expliquer la formation de la Lune. On pense même que le couple Pluton-Charon que nous évoquions dans un autre épisode a pu se former de la même façon. Cela n'empêche cependant pas cette théorie de conserver encore quelques points d'ombre soumis au doute. La taille de l'impacteur ou le nombre d'impacteurs est par exemple aujourd'hui toujours discutée. Et ce que je vous ai raconté n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, amenée et évoluée au fil des découvertes et des missions. L'intérêt croissant pour notre satellite et le nombre de missions spatiales en cours ou en préparation à destination de celui-ci permettront à coup sûr de placer un projecteur sur ces zones d'ombre. Cela promet également, évidemment, de poser de nouvelles questions qui viendront remplacer les précédentes. En décembre 2020, la sonde spatiale chinoise Chang'e 5 a ainsi ramené sur Terre les premiers échantillons lunaires depuis 1976, et également les premiers en provenance de la face cachée. Mais cela, c'est une toute autre série de carnets de voyage qu'on se fera un plaisir de découvrir dans une prochaine exploration. Attendez, j'entends quelque chose, on dirait que ça vient de derrière la cloison. Mais oui, c'est du Céline Dion, l'émetteur doit être juste derrière. Si j'arrive à accéder au conduit de ventilation... Voilà. Allez, faufilons-nous à l'intérieur et passons de l'autre côté. Encore, dernier effort. C'est bien là, nous y sommes, encore quelques mètres, un coup de pied bien senti. Oula, j'espère que ça n'a pas attiré les gardes. Ouch! Ah, j'ai perdu ma souplesse de ballerine, on dirait. Oh, le voilà, l'ordinateur central de diffusion. Waouh! Il y a une playlist de 12 000 heures de musique à l'intérieur. Et voilà les gardes aussi. S'ils continuent à tirer comme ça, ils vont passer rapidement la porte. Il faut que je me dépêche. Bon, heureusement, l'accès n'a pas l'air compliqué. Je suis déjà dans le sous-système de transmission. Encore quelques paramètres à chercher. Allez, ma chère Céline, c'est l'heure de se tirer. Tiens, on dirait que ça a calmé les gardes. Ils s'en vont.
Félicitations, vous avez arrêté les Sélénites qui menaçaient la sécurité du système solaire.
Décodeur ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ?
Je communique avec vous par hologramme. Grâce à vous, le système est coupé et les occupants de la base ont pu récupérer leurs esprits et reprendre leur vie d'avant.
C'est donc terminé ?
Oh, bien au contraire, maintenant vous allez pouvoir pousser l'exploration, partir à l'aventure en tout point de l'espace et du temps. Maintenant, tout le système s'ouvre à vous. Maintenant, votre capsule vous attend. Maintenant, vous pouvez enfin partir à la recherche de la Spoutnitaire.
C'est parti ! Cet épisode marque le premier anniversaire de la recherche de la Spoutniter. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout, lui et peut-être même ses prédécesseurs. Si vous souhaitez participer à la vie de la capsule, vous pouvez, en adressant vos questions, remarques ou suggestions diverses et variées à l'adresse à la recherche de la spoutniter@gmail.com, tout attaché, tout en minuscules et sans accent. L'occasion, pourquoi pas, de revisser quelques boulons du circuit de propulsion ou bien d'entrer une nouvelle destination. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents sur le site de Radio U, radio-u.org. Chaque émission se trouve agrémentée de quelques images en lien avec le sujet du jour, ainsi que quelques hyperliens pour toujours aller plus loin. Allez, on se retrouve le mois prochain à la même heure, sur Radio U bien sûr. En attendant, gardez la tête en l'air, les yeux ouverts, à la recherche de la Spoutniter.